Çalçayıoğlu le XVIIe siècle a craint les passions pour toute une série de raisons, à la fois d'ordre religieux, d'ordre politique, de bonnes et de mauvaises raisons, comme toujours. Mais il les a aussi très bien peints et dépeintes, ces fameuses passions, et notamment Madame de Lafayette, dans la Princesse de Clèves.
Tout à fait, mais je pense que toutes les époques craignent les passions, puisque les passions, c'est le désordre, l'anarchie de l'esprit, la sujétion au torrent de ses désirs. Et Madame de Lafayette était une femme, enfin que j'imagine c'était l'amie de Madame de Sévigné et de la Rochefoucauld, et elle habitait rue Férou, et à chaque fois que je passe rue Férou, c'était à l'angle de la rue de Vaugirard que s'élevait son hôtel, et c'était la partie de la rue Férou qui était assez mal fréquentée, d'ailleurs bizarrement, une partie de la rue Férou était voûtée. Vauclin des Yvetot habitait pas très loin non plus. Je me suis reconstitué comme ça tout un Paris
des Paris gens que j'adore,
un Paris littéraire. Oui. Et Madame de Lafayette, c'était un personnage qui est pour moi une sorte de braise toujours ardente et qui se consume sans cesse sans jamais trouver sa cendre. C'est cela, Madame de Lafayette, toute sa vie, aussi bien dans l'amour, dans la vie. La passion lui est montée au cerveau et il y est resté, n'est jamais redescendu jusqu'à ses pieds, jusqu'à son sexe en définitive. Car on ne sait rien de la vie sexuelle de Madame de Lafayette. Et dans La Princesse de Clèves, qui est un livre absolument admirable, quand j'étais jeune homme, j'avais écrit une imitation de La Princesse de Clèves qui s'appelait L'Armée Taciturne.
C'était bon ?
Non, très mauvais.
Très mauvais.
Et j'avais écrit ça quand j'étais au service militaire en Algérie pour survivre intérieurement. Et donc il y a cette espèce de phrase désincarnée en même temps complètement incarnée qu'il y a chez Manassiela dans La Princesse de Clèves. Par exemple, il y a un passage absolument magnifique que je ne résiste pas au plaisir de vous dire.
Allez-y.
C'est un passage très très bref, j'ai le livre sous les yeux. C'est La Princesse de Clèves qui va voir pour la première fois le duc de Nemours, celui dont elle va tomber follement amoureuse. Et lui aussi va tomber follement amoureux d'elle, c'est l'amour-passion. C'est le premier regard qu'ils vont échanger. Et le premier regard qu'ils vont échanger, c'est un peu l'anneau de fiançailles de leur esprit. Leurs deux esprits vont se gainer de l'amour de l'autre et rentrer l'un dans l'autre. Il va y avoir une copulation intellectuelle et non pas charnelle. Et c'est cela. Alors, c'est le bal de la cour. Ils sont tous là, tous les gens, imaginez tous les gens autour de la piste de danse. Et ces deux êtres qui sont très très beaux et qui sont faits l'un pour l'autre par leur beauté s'appelle déjà. Voici ce qui se passe. Lorsqu'elle arriva, Mademoiselle de Clèves, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. C'est un peu vulgaire, ce celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Il passait par-dessus les chaises. Il arrivait comme il était porté par une espèce de vague. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Alors cette espèce d'exaltation de la beauté par la beauté, je n'ai pas de mots pour pouvoir le qualifier.
Oui, la langue est belle, mais on n'est pas loin d'une scène assez conventionnelle.
Non, pas du tout. Je trouve que la convention est complètement dépassée. Puisqu'il y a une espèce,
par la
brutalité de l'apparition. Il y a justement la princesse de Clèves est en train de danser, elle est incertaine, elle a été mariée, mais sans amour, elle est incertaine de son être. Brusquement, un jeune homme très beau arrive, passe par-dessus les sièges, il y a une espèce... Le roi vient de lui crier, il a échappé à son rôle de roi. Dansez avec celui qui arrive. C'est un ordre qui retentit à travers la salle. Il se retourne et voit une sorte de pâtre bondissant sorti de l'astrée qui arrive justement au-dessus des... porté par la vague de son amour déjà qui se tend vers lui. Et ils vont s'embrasser sans s'étreindre vraiment en dansant ces danses de l'époque qui étaient des danses qu'on peut dire où les êtres s'écartaient sans cesse les uns des autres pour se rejoindre la nuit. Je trouve ça absolument sublime. C'est un des passages les plus sublimes du livre. Tout démarre de là, du regard échangé, du regard de feu. Ce n'est pas une scène conventionnelle. Je dirais même que la convention ici de la danse sert au contraire à l'exaltation du sentiment intérieur.
Scène très rapide, en fin de compte.
Très rapide, brutale, incisive, presque...
Pas de bavardage, on va tout de suite au fait. Deux phrases pour dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et puis presque tout est dit à ce moment-là.
Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le langage abstrait ici sert, je dirais, le forcené de la passion. Il y a un forcené dans cette scène. On a brusquement l'impression que les gens qui sont complètement, serrés dans leur costume, serrés dans leur convention, serrés dans cette espèce de déguisement qu'ils revêtent pour aller à la cour, et qui sont les déguisements de la politesse et de la civilité, brusquement tout ça explose, tout ça éclate. Et d'ailleurs, ce qui est très très beau, c'est qu'au fur et à mesure quand il la voit, il ne peut s'empêcher de faire part du sentiment qu'il éprouve devant l'admiration de sa beauté. Et en même temps, pendant qu'il danse, il y a un concert de louanges. Il y a même presque, une pointe de vulgarité, puisqu'il ne peut s'empêcher de faire paraître qu'il la trouve belle. Et cette espèce de sentiment intérieur qui monte sur son visage est presque obscène. L'obscénité n'est pas que dans l'emploi des mots obscènes, l'obscénité peut être dans l'emploi des mots les plus secrets. Et peut-être ce qui fait la force de l'amour dans La Princesse de Clèves, c'est cette espèce d'obscénité intérieure permanente qui existe entre ces deux êtres qui s'aiment et qui jamais ne s'accompliront dans les gestes de l'amour. C'est cela qui est extraordinaire. Il y a une espèce de nonne et une lascivité d'approche et jamais une lascivité dans la communion. Tout l'amour est tactile, mais une sorte de sens maintenu à distance, suspendu perpétuellement, comme l'épée de Damoclès.
Oui, ce qui peut le rendre encore plus brûlant, bien évidemment.
Mais c'est brûlant sans cesse. Oui. Et ça commence là. Ça commence là. Il ne s'était jamais vu. Il se rencontre. Oui. Le duc de Nemours et la princesse de Clèves.
Nous allons écouter un autre passage, extrait de La Princesse de Clèves. Il est lu par Claudia Riff et Philippe Boris.
Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisiez. Mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je vous croirais toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperais pas souvent. Dans cet état, néanmoins, je n'aurai d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. Je ne sais même si j'oserais me plaindre. On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari quand on n'a qu'à lui reprocher de n'avoir plus d'amour? Quand je pourrai m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire voir toujours Monsieur de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé, de vous avoir épousé, et me faire sentir la différence de son attachement au vôtre? Il est impossible de passer par-dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais.
Et croyez-vous le pouvoir, madame? Pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux pour vous plaire? Il est plus difficile que vous ne pensez, madame, de résister à ce qui nous plaît et à ce qui nous aime. Vous l'avez fait par une vertu austère et qui n'a presque point d'exemple. Mais cette vertu ne s'oppose plus à vos sentiments et j'espère que vous les suivrez malgré vous.
Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Ce que je crois devoir à la mémoire de Monsieur de Clèves serait faible s'il n'était soutenu par l'intérêt de mon repos. Et les raisons de mon repos ont besoin d'être soutenues par celles de mon devoir. Mais quoique je me défie de moi-même, je crois que je ne vaincrai jamais mes scrupules et je n'espère pas aussi de surmonter l'inclination que j'ai pour vous. Elle me rendra malheureuse et je me priverai de votre vue, quelque violence qu'il m'en coûte. Je vous conjure, par tout le pouvoir que j'ai sur vous, de ne chercher aucune occasion de me voir. Je suis dans un état qui me fait des crimes de tout ce qui pourrait être permis dans un autre temps. Et la seule bienséance interdit tout commerce entre nous.
Monsieur de Nemours se jeta à ses pieds et s'abandonna à tous les divers mouvements dont il était agité. Il lui fit voir, et par ses paroles, et par ses pleurs, la plus vive et la plus tendre passion dont un cœur ait jamais été touché.
Pourriez-vous caractériser, Michel Chailloux, la langue de la princesse de Clèves?
Bon, c'est une langue très difficile à caractériser, c'est une langue brûlante. On peut la caractériser par rapport à son ami même de Sévigné, qui a écrit la langue de la passion aussi, avec la passion qu'elle portait à sa fille. Chez Madame de Lafayette, il y a une sécheresse, incontestablement. C'est une langue de caractère aussi, de prise de possession du sentiment amoureux en permanence. On vient d'entendre un duo amoureux. Une sorte de dialogue.
Pas sec, là, pourtant, très nuancé.
Très nuancé, mais quand je dis sec, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nuancé. La sécheresse peut revêtir toutes sortes de sens, c'est-à-dire que ça peut être la sécheresse brûlante du désert, ça n'empêche pas l'ondulation des dunes dans la nuance. Et là, par exemple, chez Madame de Lafayette, ce que je sens toujours chez elle, c'est une espèce de retenue forcenée de ce qu'elle va dire tout en le disant. Et cette espèce de retenue forcenée de ce qu'elle va dire tout en le disant fait que ces personnages masculins sont des personnages qui sont toujours à l'écoute du sublime, le sublime étant incarné par la femme. Et cette espèce d'écoute du sublime fait qu'il y a une espèce de tension entre le personnage féminin et le personnage masculin. La tension étant créée par l'écoute donnée par le personnage masculin dans lequel s'installe complètement le langage qui se déploie avec réticence. Je crois que d'ailleurs la figure de style la plus belle qui a chez la princesse dans La Princesse de Clèves, en particulier chez Madame de Lafayette, c'est la réticence, je crois. Cette espèce de volonté de tout dire sans rien dire, de s'avancer, de reculer en même temps, de se projeter, de se refuser, de dire oui tout en disant non, de dire l'amour en même temps, de dire le non-amour.
Vous diriez que Madame de Lafayette a une langue vraiment à elle, qu'on reconnaît en ouvrant le livre n'importe où, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui la caractérise.
Oui, tout à fait. C'est la langue du corps absent. C'est-à-dire la langue du corps, puisque le corps est présent dans la voix qui s'exprime et qui est la sublimation du corps qui la projette à l'extérieur, et en même temps l'absence du corps, puisque la chair se retire de la voix qui la prononce. C'est ça qui est tout à fait étrange. On sent la chair comme la marée qui se recule sur la plage, qui se retire en permanence des mots. On sent l'amour qui se retire des mots d'amour. On sent l'amitié qui se retire des mots d'amitié, et en même temps l'amitié est toujours présente à cause de ce retirement, pour employer un mot du XVIIe. C'est cela qui est très très beau et qui est tout à fait personnel à la princesse de Clèves et à Madame de Lafayette, car j'emploie souvent les deux mots, puisque pour moi, elle est la princesse de Clèves. Regardez, par exemple, il y a un personnage, je crois, dans la princesse de Clèves, qui est le vidame de Chartres, hein, si mes souvenirs sont exacts. Il y a très longtemps que j'ai lu la princesse de Clèves. Et le vidame de Chartres, rien que ce mot est tout à fait intéressant. C'est un titre nobiliaire pas très employé, un peu perdu. Eh bien, il y a dans la langue de Madame de Lafayette, de la princesse de Clèves, des titres un peu perdus de la langue. Quelque chose de réticent, de refusé, de lointain. Et on n'est jamais près de la princesse de Clèves, on n'est jamais près des personnages. La seule obscénité, la seule scène où on est très près, c'est la scène que j'ai lue tout à l'heure. Autrement, on est très loin. On les voit avec les yeux de la nostalgie, avec les jumelles de la nostalgie. Ils sont au loin, dans une espèce de paradis abstrait.
On est très loin parce que les choses sont dites de manière indirecte, mais si on arrive en quelque sorte à décoder ou essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur
Pensons
des âmes...
Pensons plus au direct ou à l'indirect, puisque tout est indirectement direct, on pourrait dire chez Madame de Lafayette. Tout est lointain, tout est suggéré. Jamais tout est proposé tout de suite. On ne débarque pas, on s'éloigne en s'avançant.
Vous êtes venu, Michel Chaillot, avec l'édition de La Pléiade, c'est celle que vous conseillez ?
Vous la conseillez ? Elle est pas mal. Mais enfin, il y en a d'autres. Il y a en particulier des éditions du 18e qui étaient beaucoup plus étonnantes, mais elles coûtent cher. Ouais.